Pas de cantine pendant 15 jours dans les établissements d'enseignement catholique à partir du 3 novembre. Les problèmes de financement demeurent et l'ADEC en appelle à la responsabilité des élus. Météo France s'intéresse à la saison cyclonique. À l'arrivée de la saison chaude, cette année, l'activité cyclonique devrait être conforme, voire supérieure aux années passées. Audience de présentation ce matin au tribunal de Nouméa. À cette occasion, le procureur général Camille Miancioni a évoqué la création d'un centre de semi-liberté qui concernerait une centaine de détenus. L'armée aussi participe à la relance de l'économie et la première pierre du futur mess des officiers a été posée cet après-midi. Investir dans le sport, c'est faire des économies en termes d'éducation, de cohésion sociale ou de santé. C'est la conviction du président de la Fédération française de triathlon actuellement sur le territoire. Il était ce midi l'invité du magazine des sports du lundi sur Radio Rythme Bleu. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal pour tout savoir de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et dans la région Pacifique. Une semaine décisive pour la fixation de la date des élections provinciales. C'est en effet cette nuit pour nous, à 16h30 heure de Paris, que s'est réunie la commission mixte paritaire sur la proposition de loi organique reportant le scrutin. La proposition sera ensuite examinée mardi en séance publique par l'Assemblée nationale. Ce sera dans la nuit de mardi à mercredi hors de Nouméa. Et ce sera le moment crucial puisque l'on saura à ce moment-là s'il y a ou non une majorité pour adopter le texte qui ne pourra pas être amendé. C'est mercredi que le Sénat conclura l'examen de la proposition de loi organique et il restera ensuite quelques jours pour qu'elle soit soumise au Conseil constitutionnel avant sa promulgation qui doit intervenir au plus tard le 2 novembre. La cantine suspendue à compter du 3 novembre dans tous les établissements catholiques du territoire. C'est l'une des annonces faites par Manuel Van Arscott, le directeur de l'ADEC, la direction diocésaine de l'enseignement catholique. Et il en appelle, Charlotte Coulson, à la responsabilité politique des élus.
Une ultime parole pour établir la vérité et préserver l'avenir. Ultime, c'est le mot qui ressort de cette déclaration solennelle de Manuel Van Arscott cet après-midi. Une parole ultime et une alerte ultime, car dès le 3 novembre, les conséquences pourraient être bien réelles pour les familles et les enfants de l'enseignement catholique. L'ADEC devrait en effet prendre des mesures difficiles pour répondre à la tension de trésorerie qui pèse sur ses comptes.
À compter du 3 novembre 2025, la fabrication des repas sera suspendue. Le service de cantine le midi ne sera pas assuré dans l'ensemble de nos établissements. Cette mesure sera réévaluée tous les 15 jours. Pour les élèves internes, particulièrement dans les lycées où les élèves ont débuté depuis aujourd'hui les épreuves de la session d'examen 2025, les résidences scolaires resteront ouvertes. Les petits déjeuners et les dîners seront assurés normalement. 32 personnels remplaçants en contrat à durée déterminée ne seront pas renouvelés. Et par ailleurs, sans solution dans les jours à venir, un plan de licenciement économique sera engagé, car l'ADEC ne peut plus attendre.
Ces décisions impacteraient 9337 demi-pensionnaires sur les 12116 élèves scolarisés dans le privé catholique en Calédonie, mais aussi près de 1600 salariés. Mais l'ADEC espère toujours obtenir une réponse politique rapide, car l'objectif de cette déclaration solennelle était aussi de clarifier la situation. Manuel Van Arscott en appelle à la responsabilité politique de nos décideurs.
Contrairement à certaines affirmations, l'ADEC n'est pas en déficit. La tension actuelle sur sa trésorerie, évaluée à 630 millions de francs, provient exclusivement du non-versement par un grand nombre de partenaires publics des contributions pourtant rendues possibles par la délibération numéro 360 relative au financement de la fonction accueil, cantine et internat, dans l'enseignement privé. Il ne s'agit donc ni d'un besoin nouveau, ni d'une dérive de gestion, mais de la stricte conséquence de l'inaction des décideurs politiques depuis l'alerte lancée en février 2024. Depuis cette date, à l'exception des nombreuses mesures d'économie engagées en interne par l'ADEC, rien n'a été engagé par les institutions concernées pour corriger ce déséquilibre budgétaire.
L'ADEC n'en est pas à son premier cri d'alarme. Le 9 octobre dernier, une mobilisation pacifique était organisée devant le Congrès. Si le directeur de l'ADEC dit avoir reçu une écoute attentive, 20 jours plus tard, aucune mesure concrète n'a été prise. Pire que cela, a-t-il dit, certains élus réclament un nouvel audit organisationnel et financier de l'ADEC. Le signe d'un déni du constat déjà établi, selon Manuel Van Arscott. Aujourd'hui, il renouvelle ses trois demandes, déjà portées lors de la mobilisation du 9 octobre.
Premièrement, obtenir le versement effectif avant la fin novembre 2025 des 630 millions de francs correspondant aux contributions dues au titre de la fonction accueil. Deuxièmement, engager sans délai les travaux techniques sur la révision des taux planchers pour 2026 afin de garantir un financement équitable entre enseignement public et privé. Enfin, adopter avant la fin de l'année une modification de la délibération numéro 360, recentrant le dispositif sur un seul interlocuteur et financeur, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Ces trois objectifs sont les conditions indispensables au maintien de l'enseignement catholique sur l'ensemble du territoire. L'ADEC en appelle solennellement à la responsabilité des élus et de l'ensemble des décideurs publics pour que, en cette année d'espérance et de reconstruction, les paroles portées ne restent pas sans suite.
Une déclaration solennelle au cours de laquelle Manuel Van der Scott a également tenu à présenter ses excuses sincères auprès des familles et du personnel de l'ADEC pour les désagréments engendrés par cette situation.
Une annonce qui intervient alors que les élèves ont repris les cours ce matin après 15 jours de vacances pour la dernière période de travail avant les grandes vacances. Et pour certains d'entre eux, c'est aussi la période des examens de fin d'année qui commence, comme le rappelait Manuel Van der Scott. Dès ce matin, 1302 élèves de bac pro et 822 étudiants en BTS ont débuté les épreuves. Épreuve de culture générale pour les BTS que certains ont passé au lycée La Pérouse.
Ce matin, j'ai passé la culture générale. Ça va, c'est bien passé. Honnêtement, heureusement, j'ai révisé un peu.
J'ai un peu stressé devant la copie, mais après, c'est pas un secret. Il faut bien suivre sur les deux ans. Moi, personnellement, j'ai pas spécialement révisé.
Ça va, ça s'est bien passé. Le thème de cette année, il était très simple, c'est le repas. Donc, sous toutes ses formes. Donc, franchement, en Nouvelle-Calédonie, c'est pas ça qui manque, les repas familiaux ou avec les amis. J'ai pas spécialement révisé, c'était pas ma priorité. En vrai, tout au long de l'année, on a fait beaucoup d'évals. Il y a eu le BTS blanc il y a à peine un mois et demi. Donc, voilà, tout s'est bien passé.
En vrai, je m'attendais à plus compliqué. Mais là, ça allait parce que les textes, ils étaient plus faciles, ils étaient plus compréhensibles. Dans l'ensemble, je trouvais que c'était beaucoup plus facile que le blanc.
Ça s'est bien passé pour moi, j'ai bien fait. J'espère qu'à la fin, on aura une bonne note.
Et cette année, 12 405 élèves passent un examen, un chiffre en baisse de 2,2% par rapport à 2024. Les résultats du BTS seront publiés à partir du 4 décembre. Les résultats du bac général seront proclamés, eux, le 10 décembre. Enfin, les collégiens seront fixés le 19 décembre sur les résultats du DNB. Avec l'arrivée de la saison chaude en Calédonie, la saison des cyclones se prépare également. Et en début d'après-midi, les services du Centre Météo France de Nouméa, Lionel Sabot, ont rencontré la presse pour présenter cette saison 2025-2026.
Une saison 2025-2026 qui se présente à nous sous l'influence du phénomène La Niña qui semble s'installer sur le Pacifique. La Niña signifie, pour faire simple, que les eaux et l'atmosphère seront plus chaudes sur l'ouest du bassin Pacifique, c'est-à-dire chez nous. Conséquence, les pluies devraient être plus importantes dans les mois qui viennent. Et pour ce qui est des cyclones, la zone de cyclogénèse, la zone où naissent les phénomènes tropicaux, est plus proche de la Nouvelle-Calédonie. Thomas Abinoun, climatologue chez Météo France Nouvelle-Calédonie.
Pour cette saison 2025-2026, l'activité cyclonique devrait se décaler sur l'ouest du bassin, donc toucher principalement la Nouvelle-Calédonie et les Vanuatu. Et donc on s'attend à avoir une saison qui soit entre conforme et supérieure en termes d'activité cyclonique par rapport aux années passées, sachant qu'en moyenne, on a entre 4 à 5 phénomènes cycloniques sur la zone d'alerte de Nouvelle-Calédonie.
Et au-delà du nombre de phénomènes tropicaux qui pourraient donc être supérieurs à la normale, c'est l'augmentation annoncée des précipitations sur notre zone qu'il va falloir surveiller. On retrouve Thomas Abinoun.
Les cyclones sont porteurs de pluie par définition, même si on a connu des cyclones sans pluie. On se rappelle l'Iran par exemple qui avait été un peu surprenant, mais d'une manière générale les cyclones sont porteurs de pluie et quand on est dans un environnement qui est propice à la recrudescence des pluies, un environnement qui est particulièrement humide comme ça va être le cas cette année, eh bien on s'attend effectivement à ce que les pluies soient plus abondantes dans les cyclones. Et ça, on n'a pas besoin d'avoir un cyclone forcément intense pour avoir des pluies abondantes et dès un stade de dépression tropicale modéré, on peut très bien avoir des pluies déjà très importantes, des pluies diluviennes qui peuvent causer des grosses inondations et mettre en péril la vie des gens.
Et j'ajoute qu'il y a quelques jours, l'ensemble des services météo de la très grande région Pacifique se sont retrouvés pour évoquer, comme chaque année, la saison cyclonique. Tous les modèles s'accordent à dire que la zone Nouvelle-Calédonie-Vanuatu devrait être la plus exposée aux phénomènes tropicaux pour cette saison. J'ajoute encore que nous reparlerons de cette saison cyclonique 2025-2026 qui se prépare demain matin. C'est en effet Thomas Binoun qui sera notre invité du matin à 7h30.
Merci Lionel. Et avant de marquer une première pause dans ce journal, on retrouve notre question du jour.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici donc cette question du jour. Pensez-vous qu'à l'issue de la réunion de la commission mixte paritaire, la proposition de loi organique qui reporte les élections provinciales sera adoptée définitivement par les deux chambres? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146 à 17h57. La première pause dans ce journal. On se retrouve dans un instant pour évoquer le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixone à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46.
Info soir, Jean-François Baudin.
La suite de ce journal avec deux audiences solennelles de présentation ce matin au tribunal. L'occasion d'installer officiellement dans leurs fonctions les personnels de justice arrivés dernièrement sur le territoire. Il s'agissait notamment de Bruno Carle, le premier président, de Cécile Morillon, présidente de chambre, Pierre Michaud, avocat général, ou encore Camille Miansoni, le procureur général qui remplace Bruno Dalle, affecté depuis à Monaco. Camille Miansoni qui a rappelé ses priorités, notamment les conditions d'incarcération.
La question de l'administration pénitentiaire, donc de la prison, pour dire les choses simplement, nous avons une prison qui n'est pas du tout à la hauteur de l'image et de la France. Donc il faut que cette question soit traitée. Alors il y a un projet d'établissement, vous le savez tous, qui est en cours, mais un établissement pénitentiaire, ça ne se construit pas en deux jours. Ça se construira, j'en suis convaincu, mais il faut du temps. Et en attendant ce nouvel établissement, il faudrait qu'on puisse trouver une solution pour essayer de désengorger. D'où l'idée de trouver des modalités d'application de la peine, notamment un centre de semi-liberté qui serait à l'extérieur, qui permettrait de sortir une centaine de détenus, pas les plus dangereux, pas les plus lourdement condamnés, mais en attendant la création d'un nouvel établissement.
Le procureur général cite encore parmi ses priorités la lutte contre les violences intrafamiliales et la délinquance économique et financière. Dans ses réquisitions, Camille Miansoni a rappelé le contexte de la Nouvelle-Calédonie et sa détermination à lutter contre tous les faits qui viseraient à remettre en cause la paix sociale.
Le contexte est particulier, il y a une tension qui n'est pas totalement apaisée. Il y a eu une gestion maîtrisée de ce qui s'est passé. Sur le point judiciaire, les affaires sont en cours de traitement, il en reste quelques-unes, mais l'essentiel des affaires a été traité. On reste extrêmement vigilants, je l'ai indiqué aussi, j'ai fait un communiqué il y a quelques jours avec le procureur de la République. Nous sommes très, très vigilants, nous sommes très attentifs à tout ce qui peut se passer, et en particulier à toute tentation d'inciter qui que ce soit, toute ou partie de la population, à des actes qui pourraient être qualifiés d'actes de violence ou de dégradation des biens d'autrui.
Et après cette audience de la Cour d'appel de Nouméa, une autre audience a permis d'installer les nouveaux magistrats du parquet. Une installation qui est un soulagement pour le procureur de la République, Yves Dupas.
C'est une étape très importante dans le renouvellement de l'équipe du parquet. Nous étions depuis plusieurs mois à moins 4 magistrats sur une équipe de 9. C'était effectivement compliqué, mais nous avons tenu. Et puis là, nous avons le plaisir d'accueillir nos nouvelles collègues qui vont apporter leur richesse de parcours, leur expérience, leur expertise, avec deux vice-procureurs, l'une qui est en charge de la section détachée de Connay, l'autre qui assurera le contentieux économique et financier, les procédures commerciales. Oui, la lutte contre la délinquance économique et financière fait partie de nos priorités et donc Fatou Diop sera sur ce type de procédure. C'est très important pour nous d'accueillir ses collègues aujourd'hui. Vraiment.
Le procureur de la République a lui aussi insisté sur la détermination du parquet dans la lutte contre les actes visant à troubler l'ordre public et notamment les menaces sur les élus. On en vient à l'actualité militaire qui rejoint aussi, Lionel Sabot, l'actualité économique puisque la pose de la première pierre du futur mess des officiers de l'artillerie, a eu lieu cet après-midi.
Oui, après 51 ans de bons et loyaux services, le mess bien connu des Calédoniens n'est plus et le chantier du bâtiment qui le remplacera d'ici le mois de mars 2027 est en cours. Ce chantier, lancé il y a maintenant un an avec la signature des contrats entre la direction des infrastructures des forces armées en Nouvelle-Calédonie et les différents maîtres d'œuvre, s'inscrit dans les investissements d'infrastructures structures de défense en Calédonie, plus globalement dans un contexte de programmation de loi militaire qui prévoit 17 milliards de francs pacifiques d'investissement. La pose de la première pierre de ce chantier s'est déroulée cet après-midi en présence du général de brigade Gabriel Soubrier, le commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie.
C'est un chantier ambitieux, puisque 1,67 milliard de francs pacifiques, ce n'est pas rien, et ce qui en fait aujourd'hui le premier projet infra sur le Caillou. Je pense que ça fait partie aussi de nos missions, de participer à cette relance économique. Ce projet infrastructure donc, qui est assez conséquent financièrement, c'est aussi une quarantaine d'entreprises calédoniennes qui sont partie prenante de ce projet infrastructure. Et donc c'est un soutien direct au secteur du BTP calédonien, aux entreprises calédoniennes et à toutes les femmes et les hommes qui servent dans ce secteur.
Et ce futur nouveau mess de l'artillerie sera donc un lieu de convivialité pour les militaires présents en Nouvelle-Calédonie, mais pas seulement. Le général Soubrier tient également à en faire un lieu de mémoire.
Le mess précédent datait de 1974. De nombreux Calédoniens y sont passés, notamment de nombreux conscrits. Et l'idée est de valoriser, de mettre à l'honneur ces soldats qui ont servi au sein des forces armées en Nouvelle-Calédonie en mettant dans le hall d'entrée des figures calédoniennes qui ont servi les armées françaises ici ou ailleurs, et ce qui permettra d'avoir ce lien avec l'histoire, ce lien avec la mémoire, et que lorsque chacun rentrera au sein du mess des artifices pourra avoir une pensée pour ses anciens. Et d'ailleurs, ce qui tombe bien, c'est que 2027 arrivera après 2026, et que 2026 sont les 80 ans du retour du bataillon du Pacifique. Et pourquoi pas mettre une figure du bataillon du Pacifique dans ce hall d'honneur, et qui sera là pour valoriser nos anciens.
Et le futur mess des officiers de l'artillerie devrait être livré en mars 2027. Ses premiers clients, entre guillemets, bien évidemment, devraient être les militaires de la région qui participeront au prochain exercice Croix du Sud en 2027.
Et puis la réouverture complète ce matin de l'agence Société Générale de Païta. Cette agence avait été saccagée et partiellement détruite en mai 2024 lors des émeutes. Une réouverture partielle avait eu lieu au mois de juin cette année, avant donc cette réouverture complète ce matin, après de nombreuses étapes avec les différents partenaires de la banque. Ismaël Zitouni est le directeur général de la Société Générale de Nouvelle-Calédonie.
Elle a nécessité quand même pas mal d'étapes, notamment des discussions avec la mairie, des discussions avec le maître d'ouvrage et des discussions avec les collaborateurs également, pour savoir si en termes de sécurité on pouvait réouvrir cette agence qui était très attendu par les habitants de la commune de Païta et par la maire de Païta, puisque ça permet de faire vivre la commune et de donner un redémarrage positif pour Païta. On a quand même 4000 clients, plus de 4000 clients à l'agence de Païta. Donc il fallait qu'on rende aussi le service que l'on connaît de général sur Païta. On a créé en plus de ça un espace professionnel à cette agence, donc on expertise le métier professionnel, donc les conseillers pro. Donc ils ont tout un espace dédié au-dessus de l'agence de Païta, puisqu'on croit en l'avenir et on croit au développement du marché professionnel et des professions, qu'elles soient libérales, artisans, commerçants, autour de Païta et ses communes.
Cette agence est située dans le centre du village. Elle est ouverte de 7h30 à 11h55 et de 13h à 15h30 sur rendez-vous. Le libre service bancaire est lui ouvert de 7 jours sur 7, de 5h15 à 19h. Air Calin renforce la fiabilité et le confort de ses vols pour la haute saison. À partir du 24 novembre, la compagnie mettra en ligne plusieurs vols affrétés auprès d'Euro-Atlantic Airways via Paris et Bangkok, une compagnie européenne qui opère sous la même réglementation et selon les mêmes standards qu'Air Calin. Dans les faits, il s'agit d'utiliser pour la haute saison un avion supplémentaire, un Boeing 777-200. Il offre un niveau de confort équivalent à celui proposé habituellement dans les trois classes de transport. Certains services seront susceptibles de changer, comme le fait par exemple que l'appareil ne dispose pas de Wi-Fi à bord. Il opérera donc principalement sur les routes Sydney-Singapour entre le 4 décembre 2025 et le 5 février 2026. Les passagers concernés seront informés de ces changements d'appareil. Ce dispositif renforcé contribuera à assurer la ponctualité et la régularité du programme des vols. Il est temps de tourner une dernière page de publicité dans ce journal avant de se retrouver pour la fin de cette édition.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance!
Savez-vous qu'il faut nettoyer régulièrement les filtres et effectuer au moins une fois par an l'entretien de votre climatiseur? Fermez les fenêtres et portes dans une pièce climatisée pour se prémunir de la surconsommation de l'énergie.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La fin de votre journal avec Jean-François Bonin.
Surprise pour les visiteurs de l'aquarium samedi après-midi. Ils se sont retrouvés les pieds dans l'eau. La jointure du bac qui contient les nautiles a en effet cédé et les 7000 litres d'eau salée se sont déversés dans la salle des visiteurs, Charlotte.
C'est une sortie dont ils se souviendront pour sûr, car ça n'est pas tous les jours qu'un bassin cède dans un aquarium. La dernière fois, c'était il y a 15 ans à Dubaï. 10 millions de litres s'étaient déversés dans un centre commercial. À Nouméa, la fuite n'a pas été aussi impressionnante, mais ce sont tout de même 7000 litres qui, en quelques minutes à peine, ont inondé les deux tiers de l'aquarium. C'est le bac qui abritait depuis plus de 20 ans les nautiles qui a cédé. Il n'a pas explosé, c'est la jointure des deux vitres qui a lâché, comme l'explique le responsable service aquariologie et maintenance de l'aquarium, Sylvain Gauvin.
Il faut savoir que ce genre d'aquarium, en fait, ce sont deux demi-lunes qui sont collées. Ce sont des panneaux de métacrylate donc qui sont soudés entre eux pour en former qu'un seul. Donc à cette jointure en fait, qui a cédé et qui a donc laissé évacuer donc, les 7000 litres d'eau très rapidement dans le bac. Mais le bac est resté intact. C'est juste une fente en fait, où l'eau a inondé en fait, une très grande partie de l'aquarium. Tous les bacs ont été conçus en usine, par les usines de métacrylate hein, qui fabriquent les bacs. Donc ils ont été montés il y a à peu près 20 ans sur tous les aquariums. Ils arrivent d'origine depuis l'usine. Quoi. Mais on a quand même inspecté tous les autres bacs et en fait les autres bacs ne sont pas conçus de la même façon. Les autres bacs sont d'un seul panneau qui sont en fait encastrés dans des murs. Donc la poussée est différente, elle n'est pas comme sur un tube qui tient par lui-même en fait. Hein. Donc la possibilité qu'un grand bac ne s'ouvre comme ça, c'est quasiment inexistant.
Quant aux animaux, 3 nautiles adultes et quelques poissons des profondeurs qui étaient dans le bac, ils sont heureusement sains et saufs.
Ils vont très bien en fait, après avoir évacué et mis en sécurité les clients. Donc nos soigneurs se sont bien sûr occupés des animaux, ce qui restait quand même un peu d'eau dans le bac. Hein. Et on a pu sortir tous les animaux, dont les nautiles notamment, et les répartir donc dans les bacs de quarantaine, notamment des bacs de géniteurs où on les reproduit en fait. C'est un animal qui vit dans des eaux à 17 degrés, donc il fallait tout de suite le remettre dans un bac à même température surtout. Comme on a des bacs dédiés en zone technique, il n'y a aucun souci en fait. Un transfert qui est fait en quelques secondes. Et on a même pu remettre en fait les nautiles dans un bac de présentation plus petit cette fois-ci, en zone de visite.
L'aquarium était donc fermé au public aujourd'hui. Les équipes s'activent à nettoyer la moquette et à contrôler chaque bassin pour une réouverture de l'aquarium demain ou mercredi à temps pour la soirée Halloween prévue vendredi soir.
Ce week-end, de nombreux Calédoniens se rendront dans les cimetières pour honorer les défunts de leur famille. C'est en effet ce week-end la fête de la Toussaint, ce sera samedi, et la fête des défunts dimanche. Préparer ses obsèques, des obsèques et comment être accompagné, ce sera le thème du magazine Citoyen. Demain midi, nous en parlerons avec Béatrice Pietri, qui est directrice d'une agence de conseil et de formation des métiers du funéraire et représentante des PFC. Yann Tixier, qui est le directeur de Mon Choix Funéraire, et le diacre Pétello Sagessia. Rendez-vous donc demain dans le magazine Citoyen. On en vient à l'actualité dans la région et la Papouasie-Nouvelle-Guinée compte près de 10 millions d'habitants. C'est le résultat du recensement de la population effectué l'an dernier et confirmé par le Premier ministre James Marape. Une forte hausse qui n'est pas sans conséquences sur les choix que va devoir faire le pays. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
James Marape a rappelé qu'en 1975, la Papouasie-Nouvelle-Guinée ne comptait que 3 millions d'habitants. Il a toutefois observé que, depuis, la croissance de la population a été supérieure à plus de 3% par an, tandis que la croissance annuelle de l'économie, quant à elle, a été inférieure à 3%. Cette situation n'est pas viable et ne peut pas durer, a-t-il dit, car notre population croît plus vite que notre économie. Notre priorité absolue doit donc être de faciliter notre croissance économique, a-t-il estimé. Cette croissance nous permettra de générer les revenus nécessaires au financement des services publics tels que la santé, l'éducation et les infrastructures, a-t-il dit. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Et on termine par le sport. Nous avons parlé triathlon dans le Mac des Sports ce midi avec deux invités, le président de la Fédération française de triathlon et le président de la Ligue calédonienne. Cédric Gosse, le président de l'instance nationale de la discipline, est également secrétaire général du CNOSF. Il multiplie les rencontres sur le territoire pendant son séjour.
Des rencontres très intéressantes et puis à la fois des rencontres des institutions, des hommes et des femmes, présidents de clubs, élus... soit au comité olympique, soit au comité directeur de la Ligue. Et c'est toujours très, très important pour un président de fédération d'aller sur le terrain. Et très important de comprendre ce qu'est la Nouvelle-Calédonie, ce qu'elle a vécu, ses caractéristiques géographiques, sociales, pour percevoir comment vit le triathlon et comment vit le sport sur l'île. L'idée est d'adapter la politique de notre fédération à nos territoires. Considérez aussi que cette politique doit être différenciée parce que la Nouvelle-Calédonie, c'est pas la Guadeloupe, c'est pas la Réunion. Il y a des particularités et puis effectivement porter le message que le sport peut être un véritable vecteur de reconstruction sociale, que ce n'est pas une dépense, mais véritablement un investissement. Moi, j'ai rappelé aussi aux différentes personnes que j'ai rencontrées que 1 euro investi dans le sport, c'est 13 euros d'économie de la dépense publique, notamment en termes d'éducation, de cohésion sociale, de santé. Voilà.
Cédric Gosse, le président de la Fédération française de triathlon, était en Australie pour la dernière étape du circuit mondial à Wollongong. Il était accompagné par Éric Savignac, le président de la Ligue calédonienne, qui en a profité pour continuer de nouer des liens en vue de développer la pratique sur le caillou.
On a continué les discussions qu'on avait engagées avec Pete DeWitt, qui est le président de World Triathlon Oceania, et par l'intermédiaire de Bernard Saint-Jean, directeur de la Fédération française et qui est également membre du board, avoir des échanges plus concrets. Donc là, avec Bernard, justement, on va rédiger une convention pour être invité à la table de World Triathlon Oceania et participer aux compétitions de développement, mais également avec des échanges de formation, de montée en compétences sur les officiels techniques.
Éric Savignac, le président de la Ligue calédonienne de triathlon, qui était donc notre invité ce midi dans le magazine des sports en compagnie de Cédric Gosse, président de la Fédération française de triathlon. Et on va terminer par quelques résultats d'athlètes calédoniens en dehors du territoire, Lionel Sabot.
En taekwondo, la jeune Mei Ling Wei Mama s'est inclinée dès le début des mondiaux de la discipline en Chine contre la cubaine Errard. Chez les moins de 73 kilos, il s'agissait de sa première participation à ces championnats du monde. En karaté, 4 Calédoniens, Kenza Amatso Merki, Kurt Elvakov et Tommy Barrault, qui viennent d'intégrer le pôle espoir à Montpellier, et Célia Sarr, qui est au pôle espoir de Châtenay-Malabry, ont participé ce week-end à l'Open de France en région parisienne. Open qui marque le coup d'envoi de la saison de karaté. Plus de 1000 participants étaient présents. Au-delà des résultats purs, il s'agissait pour nos Calédoniens qui sont en catégorie espoir de se confronter à des karatékas seniors. Un Open de France qui a servi également de préparation à la Coupe de France qui se déroulera d'ici quelques semaines. Et puis en karting, Raphaël Gilles disputait sur le circuit international du Val d'Argentan dans les Deux-Sèvres la Coupe de France ce week-end. Dans la catégorie nationale, 54 pilotes étaient en lice. À l'issue de 2 jours de compétition, le jeune Calédonien a pris la 34e place au classement général final.
Merci Lionel. 18h15, c'est l'heure de la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
On vous écoute Pierre.
Cette nuit, le ciel sera bien étoilé dans l'ensemble, à l'exception de la chaîne de Lifou, Marais et de la façade Est, où les nuages seront plus nombreux avec des averses en première partie de nuit. Ces averses pourront être localement soutenues sur l'Est et le relief. Le vent restera faible et variable, mais atteindra autour de 10 nœuds sur la pointe nord et sud. Les températures nocturnes remonteront légèrement, comprises entre 19 et 24 degrés et jusqu'à 26 degrés sur le nord. Demain matin, la journée débutera sous un beau soleil, et ça fait du bien, malgré quelques quelques nuages circulant sur le nord-est et aux Loyautés. De rares gouttes seront possibles sur le nord et la côte est. Le vent d'est, lui, soufflera autour de Digne sur la pointe nord, tandis qu'ailleurs, il restera faible avant que de petites brises du sud entre 5 et Digne ne se lèvent en fin de matinée sur la côte ouest. Côté marée pour nos amis la pêcheur, la marée haute sera attendue ce soir à 22h56 pour 1m18. La marée basse suivra mardi matin à 5h12 pour 0m45 avant une nouvelle marée haute à 12h11 avec 1m32 au pic.
Merci beaucoup Pierre, c'est la fin de ce journal. Restez bien avec nous, comme tous les lundis, vous allez retrouver dans un petit instant le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. L'invité de ce grand rendez-vous est cette semaine l'ancien ministre des Outre-mer, Manuel Valls.